Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
Top Music.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
Je suis arrivée à un moment où, dans l'histoire de notre société, une femme seule à sa place peut gagner sa vie, peut avoir une liberté sexuelle fabuleuse qui, avant 68, n'existait pas, qui n'a pas été l'otage de ses ovaires parce qu'on a eu enfin la contraception. Donc tout ça, c'est, à 10 ans près, c'était pas joué, vous voyez.
Anne-France Dauteville est un sacré personnage qui ne mâche pas ses mots. Vous allez voir, ou plutôt entendre. En mai 68, Anne-France est publicitaire, rédactrice précisément. Elle s'achète sa première moto pour passer les grévistes qui bloquaient le métro. C'est ainsi que naîtra sa passion pour les deux roues. En 1973, après quelques voyages pour se roder, elle devient la première femme à faire un tour du monde à moto sur une Kawasaki 100 cm3. Un record constaté par l'huissier, nous a-t-elle dit, pour faire taire les rumeurs. Pendant des années, elle a suivi le vent, traversé les continents. Elle en a avalé des kilomètres et des couleuvres, en solitaire et sans peur. Une demoiselle sur une moto, le monde pour maison et le soleil comme horizon. Pour payer ses raids, elle a tout raconté dans ses livres et ses articles. Elle a tracé sa route, fait des choix de vie sans doute pas toujours faciles. C'est une héroïne, comme on n'en fait plus, qui monte sur le podium cette semaine, engagée corps et âme pour sa liberté. Je suis très émue de rencontrer cette femme extraordinaire. Bonjour Anne-France et merci d'être venue jusqu'à moi.
Je suis toute rose avec émotion parce que franchement, autant de compliments, j'en peux plus. Je vais dire ça à mes chats, ils vont se rouler par terre de rire.
Alors Anne-France, racontez-moi tout ça. Ça vient d'où cette idée de traverser le monde à moto, de partir toute seule pour découvrir quoi? Pour courir après quoi?
Si je le savais. J'avais une carrière dans la publicité, conceptrice, rédactrice. Une carrière qui se dessinait fort bien. Et puis à un moment donné, plein de choses se sont nouées qui ont fait que je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de donner ma vie pour vendre des lessives, des petits biscuits pour l'apéritif? Enfin, c'était absurde, quoi. Ce sont des métiers qui demandent tellement d'intelligence, de créativité, pour des trucs dont j'ai strictement rien à cirer. Ça n'avait plus de sens. Et l'argent ne m'intéresse pas assez pour que ça soit ça la motivation.
Comment vous étiez rentrée dans la publicité au départ?
Je voulais un métier où on écrit. J'ai appris à lire à 5 ans. À 5 ans et demi, j'ai ouvert un atlas. J'ai vu qu'il y avait l'Amazon. Et je m'étais dit, je serai un écrivain et j'irai voir l'Amazon. Point barre. Ça, c'était l'idée de la vie, elle ne m'a jamais quittée. Mais comme je ne voulais pas vivre dans une chambre de bonne, il fallait que je gagne de l'argent. Et les métiers où on gagnait de l'argent à cette époque-là, dans les années 60, la fin des années 60, c'était la publicité. Et en fait, c'est une excellente école. J'ai commencé à la régie publicitaire de Radio Luxembourg. J'ai écrit des messages de 30 secondes, 90 mots. Et on apprend à écrire pour être comprise. Et ça, c'est une très, très bonne école. Après, j'ai appris dans les agences de publicité à manier les images fixes, les photos. C'est un langage. À concevoir des films de 30 secondes pour vendre tout et n'importe quoi. Donc, toutes ces choses-là, c'est des techniques formidables. Je trouve que tous les écrivains, tous les journalistes devraient passer par une agence de publicité pour être certain d'être compris. Travailler avec le son, le son des mots, même si on ne lit pas haute voix, on l'entend dans la tête. Donc, oui, ça a été une formidable expérience, mais à un moment donné, j'ai fait le tour, quoi.
Oui.
Donc, comme j'ai fait le tour de la publicité, je vais faire le tour du monde à la place.
Et donc, cette idée de faire le tour du monde, elle vous vient comment?
Alors,
parce qu'on peut aimer la moto, on n'est pas obligé de faire le tour du monde.
Alors, moto, d'abord parce que je suis une cruche totale et que j'avais loupé deux fois le permis voiture. Donc, j'étais bonne qu'à conduire des motos. Bon, la première moto que j'ai achetée, c'était un 50 cm3 Honda. J'étais encore dans la publicité et j'ai acheté ça parce que je voulais plus jamais que la CGT me mette à pied. Hein, c'était quand même pas possible. Donc, j'achète mon 50 cm3 Honda dans les 30
secondes. Donc, dans un objectif de déplacement, tout simplement, au départ.
Absolument. Et les 30 premières secondes, je me suis dit que j'ai fait la bêtise de ma vie. Et la 31e, quelqu'un a regardé la moto un peu, enfin, ça s'appelait une mobilette ou une mouche à merde d'ailleurs. 50 cm3, c'était pas du sérieux. Mais on me regarde ça, je lui ai arraché la tête au mec si jamais il regardait ça de près, parce que c'était magique tout d'un coup.
Et qu'est-ce qui était magique, la moto ou une femme sur une moto?
Non, de se déplacer.
De se déplacer.
Oui, oui.
Ah, par rapport à tous ceux qui étaient bloqués par les grèves.
Mais même pas, parce que ça, c'était après les grèves, en fait, c'était à la rentrée. Simplement d'être, je sais pas, le mouvement, de pouvoir aller d'ici à là, comme ça, en tournant une poignée, c'était magique. Et puis, je crois, mes vacances en septembre, septembre suivant, j'ai annoncé à l'agence où j'étais que j'allais descendre voir la Méditerranée, que je ne connaissais pas. Tu y vas? Ben oui, j'y vais. Tu y vas comment? Ben avec la mouche à merde. Mais t'es folle, toute seule, mais c'est dangereux. Et ça a été mon premier voyage. Et c'était tellement génial que du coup, j'ai passé le permis moto. J'ai eu des motos de plus en plus grosses parce que je gagnais de plus en plus de fric. Et tous les mois de septembre, j'allais me balader. Et j'ai visité la France dans un bonheur absolu. C'était fantastique.
Il y a une musique qui vous accompagnait?
Non, ça n'existait pas, les écouteurs et tout ça. Vous savez, c'était le Moyen-Âge, hein, au fond, la fin des années 60, début des 70. Et quand j'ai commencé à me désolidariser de ma carrière, on annonçait le premier Raid d'Orion qui était un voyage de Paris à Ispahan pour des motards, un peu sur la suite des voyages Paris-Kaboul en deux chevaux, vous savez. Mm-hmm. Et donc je me suis inscrite là-dedans, j'ai quitté la publicité, Moto Guzzi m'a prêté, l'importateur des Moto Guzzi m'a prêté la moto de son frère, qui était un tank, 240 kg vide, enfin, un truc énorme. Et je suis partie là-dessus, et j'étais la seule femme pilote. Il y avait des femmes passagères sur 105 motards.
D'accord.
Et le but de l'opération, c'était d'arriver à Ispahan. Alors, j'ai commencé par me flanquer en l'air dans le passage du Mont-Cenis. J'ai cassé en deux une borne du col. J'ai été ramassée par le camion balai. J'ai voyagé dans la voiture des médecins jusqu'à Belgrade, où on a réparé la moto qui est quand même relativement pliée. J'ai repris la route de Belgrade, je suis allée à Ispahan. On n'était plus que 92. Il y en a 11 qui ont continué sur l'Afghanistan, donc j'étais là. 5 au Pakistan, j'étais là. Et puis, je suis rentrée toute seule d'Istanbul à Paris. Et j'ai écrit mon premier livre.
Et là, vous savez faire un peu de mécanique pour réparer votre moto? Vous avez appris, non?
Ah non, moi j'y touche et mieux ça vaut, comme ça, ça limite les erreurs. Non, vous me donnez n'importe quelle moto, enfin vous me donniez n'importe quelle moto, je l'amenais jusqu'à Rawalpindi. Et puis en même temps, je pouvais la casser dans les 50 premiers kilomètres, il y a des façons de conduire. Puis les motos étaient solides, c'était la mécanique, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas grand-chose.
Ouais. Et ça vous plaît d'être la seule femme pilote?
Je m'en foutais. J'ai pas, le regard des autres ne m'a jamais intéressée. Autant je suis attentive à mes amis, autant le fait qu'on me regarde, que truc, j'ai rien à en faire. Par contre, je m'étais dit que j'allais reprendre peut-être la publicité à mi-temps pour pouvoir manger tout simplement, mais j'avais été tellement heureuse pendant ce voyage que c'était plus possible de revenir en arrière. Donc j'avais plus un rond. Je me suis installée dans la maison de campagne de mes parents, j'ai écrit mon premier livre, et quand je suis revenue à Paris, j'ai appris que j'avais voyagé dans un camion, que j'étais une grosse menteuse, une infomane.
À la rumeur. Donc quand même, le fait d'avoir été la seule femme, ah oui, ça a posé problème.
Ah oui, absolument. Oui.
Aux autres, pas à vous?
Ah bah, pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai fait le tour du monde en disant, alors j'avais appris que j'avais voyagé dans un camion tout ça en déjeunant avec un copain qui était dans un magazine de moto. Et c'est vrai qu'on avait quand même vidé aussi une bouteille de rosé. J'étais pas de bonne humeur en sortant de table. On est rentré à la rédaction et là, devant les autres, j'ai piqué mais une colère en disant, puisque c'est comme ça, je fais le tour du monde toute seule et je le fais constater par un huissier. Et j'ai mis un coup de pied dans une armoire en fer qui s'est pliée en deux.
Ah oui.
Carrément. Bon, après, il fallait que je le fasse.
Et donc, mais c'est ça, c'est la rage finalement qui vous a poussé à faire ce tour du monde?
Ah oui.
C'est la rancœur, colère.
Il fallait que je prouve que j'étais crédible pour qu'on me prenne au sérieux dans ce milieu. Parce que ceux qui m'ont savonné la planche appartenaient à ce milieu, c'était des pourris, ils étaient écoutés eux, et moi, j'étais qu'une gonzesse qui avait menti.
Mais à cette époque-là, en mai 68, c'est quoi la place des femmes?
Non, c'était en 72.
En 72. En 73, vous êtes partie faire votre tour du monde.
Oui.
Donc à cette époque-là, c'était quoi la place des femmes? Votre regard?
Je ne me posais pas du tout la question de la place des femmes. C'était une époque absolument extraordinaire où tout éclatait. où le monde s'ouvrait. C'était l'époque des voyages vers l'Orient en stop, c'était le routard, vous voyez. C'était plein de choses qui s'abattaient et on pouvait commencer à choisir sa vie. Femme ou homme, d'ailleurs. Je ne me suis jamais posé la question particulière aux femmes. Je ne suis pas particulièrement féministe. Je ne suis pas en bataille.
Pour vous, l'homme et la femme, c'est pareil?
Pas du tout. Je préfère les hommes, voyez-vous.
Je veux dire, en termes d'égalité par rapport à la société, vous pensez qu'il ne faut pas faire de différence?
Mais je pense qu'un jour, les hommes seront aussi intelligents que les femmes. Il faut juste attendre. Je suis prête à les défendre, les pauvres chéris.
Est-ce que vous avez une musique qui reflète un peu cette époque, cette liberté?
Moi, j'écoutais du classique, j'écoutais de la musique classique, j'écrivais. C'est marrant d'ailleurs parce que chacun des livres que j'ai écrits était accompagné d'une musique particulière. Je sais qu'il y a un livre que j'ai écrit, je me demande si c'est pas l'Australie de Jeffrey Cott, avec les trois concertos du piano de Rachmaninov, le troisième, qui m'a accompagné pendant un an.
Ça transporte la musique.
Et oui, ça transporte et ça fait grandir.
Ce tour du monde, un peu la rage au ventre quand même,
ben oui.
et un peu peur.
Alors, quand je partais, j'avais peur avant, mais dès que j'étais en mouvement, c'était fini, je n'avais plus peur du tout. J'avais peur avant parce que, et si des fois, et trucs, et machin, etc. Alors, le tour du monde, il a fallu l'organiser, c'est-à-dire qu'il a fallu que je trouve une moto. J'avais appris une chose avec la grosse Guzzi, c'était un tank, elle était formidable,
trop lourd,
elle passait partout. Ah oui, elle penchait, je ne pouvais pas l'empêcher de tomber, et quand elle est par terre, je ne pouvais pas la relever. Et ça peut être dangereux, parce qu'il y a des pays où il ne faut pas rester coincé la nuit. Donc, trouver une moto. Donc, j'ai appelé différents importateurs pour qu'on me prenne du matériel. Et bon, quelqu'un qui voyage dans un camion, on me dit, adressez-vous à Berlier, n'est-ce pas? Bon.
Et alors là, le fait d'être une femme et de demander ça, ça change quoi?
Non, c'était surtout les ragots. La question que je sois une femme ne se posait pas. C'était les ragots. Et c'est finalement le patron d'un magasin de moto qui s'appelait Moto Relais, qui se trouvait à Paris, à côté de Paris, et où les gens venaient réparer leurs motos eux-mêmes. C'était une grande première, c'était extraordinaire. Et ce type qui s'appelait Charles Martin m'a prêté la plus petite moto qui soit, c'est-à-dire un 100 Kawasaki. Alors, il y avait écrit 125 dessus, je crois que c'était une 125. En réalité, non, un cylindre de temps 5 vitesses. Si j'avais su que c'était un 100 cm3, je ne suis pas sûre que j'y serais allée.
Ah oui.
Et je m'étais dit, je pars, donc je pars seule, ça c'est évident. Il faut que je
fasse. Pourquoi seule?
Parce que je suis faite pour voyager seule. Dans ce raid d'Orion, j'ai compris que, un, il faut relever sa moto, deux, je suis faite pour voyager seule, et trois, je m'emmerde. Excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça.
Donc il y a quand même cette colère qui est en vous, ce défi, non? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous habite?
Non, il fallait que je prouve que j'étais crédible. Il fallait que je prouve parce que je voulais vivre cette vie, je voulais me balader. Ce que j'avais vu, ce que j'avais perçu de ce voyage où les autres étaient déjà un écran, parce que quand vous voyagez avec les autres, ils vous prennent une partie de votre attention. Donc c'est tout ce que vous n'avez pas de disponible pour les gens que vous croisez dans ces autres pays. Et je savais, je savais que j'étais passée à côté de plein de trucs. Et pour les rencontrer, il faut être seule. Et donc, je me dis, il faut que, déjà qu'on me prenne au sérieux, pour que j'ai des histoires à raconter et à vendre, parce qu'il fallait que j'en vive.
Oui, derrière, vous faisiez des livres que vous vendiez.
Et que je vende aussi des articles. Donc, qu'est-ce qui peut faire rêver? Tour du monde, je pars d'un côté et je rentre de l'autre. Déjà, je vais aller jusqu'en Alaska. Et puis en Alaska, on verra ce qui se passe. Mais au moins, c'est des pays où il y a du goudron par terre, où il y a l'eau courante. C'est
pas. Donc vous avez fait votre plan de route avant ?
Alors, au moins, on verra. Une fois que j'arrive à Anchorage, on verra. Mais il fallait que je trouve un billet d'avion pour emmener la moto et pour aller en Alaska. Moi, je n'avais pas le premier sou. Et j'avais une copine qui travaillait à Air Canada et qui me dit, bah, écoute, je t'organise un déjeuner avec le directeur de la promotion, le directeur de la publicité. J'habitais à ce moment-là dans le garage qu'une copine m'avait prêté, dans la vallée de Chevreuse, et j'avais mes deux chats, Foun et Julie. Je vais acheter ce qu'il faut pour le déjeuner. J'avais mis les petits plats dans les grands. Les chats, très contents dans leur coin. Ils arrivent, on prend l'apéritif, tout se passe bien. On mange l'entrée, tout se passe bien. Et arrive le moment du plat de résistance. Et Julie, le chat noir, avait compris qu'il y avait énormément d'électricité dans l'air. Et donc, elle a voulu m'aider. Et quand j'ai posé le rôti de veau sur la table, elle a apporté le plus beau cadeau qu'un chat puisse apporter à des humains. Elle avait été pêcher un rat dans la rivière qu'elle avait tué. Et en ronflant de bonheur, les moustaches en avant, elle a posé le rat à côté du plat où il y avait la viande. Ça jette un froid.
C'est clair.
Et j'ai eu le billet d'avion parce que j'ai foncé sur l'appareil photo et j'ai pris une photo.
Ah, excellent.
Et ils ont vu que j'étais une bonne professionnelle et j'ai eu mon billet d'avion grâce au chat.
Ah, c'est génial. Mais en fait, c'est ça, vous étiez un peu en mode reporter finalement.
Il fallait les deux.
Ouais.
Il fallait les deux parce que publier un livre, vous avez une avance sur manuscrit, mais vous touchez les droits un an et demi après. Tout ça, je l'ignorais. Mm-hmm. Et je l'ai découvert avec le premier livre. Et puis bon, il s'est passé plein d'autres choses qui ont fait que...
Donc vous partez avec quand même cette idée de dire je vais écrire. Vous écrivez au fur et à mesure ou vous écrivez quand vous rentrez ?
Non, en rentrant.
D'accord.
J'ai toujours le carnet que j'avais, je marque les étapes, et si je regarde mon carnet, je vois exactement où j'étais. Et puis je prenais des photos aussi,
encore, ouais.
Parce que pour vendre des articles, il faut prendre des photos. Et encore maintenant, je revois oui, les trois quarts des lieux où je me suis arrêtée, les images sont dans ma tête. On est dans un état passionnel, c'est comme si on oubliait un premier baiser, c'est pas possible.
Donc avant de partir, on a quand même un peu cette trouille.
Oui, mais une fois que je suis
trouille
partie,
de quoi ? Trouille de quoi ?
De l'accident, de me casser la gueule, de ne pas arriver au bout, de ne pas pouvoir de me retrouver contre un mur, quoi, au fond.
Donc pas du tout la peur d'une violence sur place.
Ah non, tout le monde me disait que j'allais me faire violer, mais déjà quand les centres toutes seules sur la Méditerranée, j'allais me faire violer partout. Oui, évidemment, c'était le grand fantasme. Mais pour ça, non, pas une seconde. Moi, j'avais peur des accidents de la route. Et effectivement, tout le monde avait parié que dans mon premier voyage, que je tomberais à 500 km. Ils ont perdu, je suis tombée à 750. Et avant de partir pour mon tour du monde, des copains viennent déjeuner à la maison et me disent « Alors, tu tombes à combien ? 1000 km. » J'arrive au Canada, je prends la route, je suis au nord de Montréal, je regarde un samedi matin, je regarde le compteur, je vois 995. « Ouah, les cons, ils ont perdu, ça y est !»
Et
je
boum
me suis... Ah oui, absolument, je me suis fait balayer par une voiture et j'entends encore les freins des autres voitures autour de ma tête. Donc, la moto pliée, moi, bien pelée sur les bras, etc. J'ai passé 3 jours dans un hôtel et puis je suis repartie. Voilà.
Et alors, comment on s'équipe pour partir faire un tour du monde à moto ?
Alors, j'étais partie
avec une tente. Parce qu'à moto, on ne va pas emmener trop de bagages.
Non, j'étais partie avec une tente. Et il faut appliquer la technique de la pelure d'oignon. C'est-à-dire que s'il fait chaud, vous êtes en t-shirt. Et s'il commence à faire froid, vous n'allez pas emporter un équipement d'été, un équipement d'hiver. Donc, prendre des choses qui peuvent s'empiler les unes sur les autres. Et quand vous avez 3 pulls de taille moyenne, ça vous fait un très gros pull d'hiver si jamais il fait froid, vous voyez ?
D'accord.
J'avais... c'était une salopette en cuir qui m'avait été offerte au retour de mon voyage, du premier voyage, par une boîte qui s'appelait Brisin, je crois qu'il n'existe plus, et qui m'avait offert cet équipement-là. Donc j'avais une veste et une salopette en cuir. Et puis... Point barre, quoi.
Et voilà.
Et puis voilà.
Et comment on lave pas son linge
On lave le petit linge, oui. Le reste, si par exemple je passe 2 jours quelque part, je vais laver ce que je peux dans le truc de l'hôtel. Le cuir ne se lave pas. Simplement, ce que je n'avais pas vu, alors il y avait deux choses. J'ignorais qu'il y avait une piste de 2000 km entre le Canada et l'Alaska. Donc une piste, ça veut dire pas de goudron, ça veut dire que les pneus, il a fallu les changer.
Ah, oui.
Donc quand je suis arrivée à Edmonton, je crois au nord du Canada, oui, on a mis des pneus de demi-trial pour les spécialistes, ça accroche par terre. Donc j'ai fait ma piste. Et puis je suis arrivée à Anchorage en Alaska. Et puis bah, c'était génial, je suis allée boire de la bière et jouer au billard dans un bistrot. Et tout le monde me regardait avec beaucoup d'attention. Et c'est là où j'ai découvert que mon pantalon était pété depuis l'accident.
Et vous aviez assez d'argent pour
alors,
tout ça. Vous êtes partie combien de temps?
Alors je suis partie au début de juillet avec 2500 francs. Quand je suis arrivée à Anchorage, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais? Je peux soit descendre vers le Mexique en suivant la côte du Pacifique. Mais ce n'était pas une image, ce n'était pas emblématique, ça ne me faisait pas rêver. C'était une Kawasaki. Kawasaki au Japon était prévenue que je partais pour mon voyage quand même, parce que même si c'est un garage privé qui m'avait prêté la moto...
Ils ont fait un peu de pub autour?
Pas vraiment, parce qu'il vaut mieux faire la pub quand je rentre. Mais par contre, ils ont prévenu Kawasaki.
D'accord.
Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis la moto dans l'avion. J'ai me resté de quoi payer mon billet d'avion, mais j'ai dit la moto Kawasaki paye à l'arrivée. Je suis arrivée au Japon. J'ai appelé Kawasaki en disant bonjour. Écoutez, je suis là. Alors, je fais mon tour du monde, n'est-ce pas? J'ai pas d'argent pour rester. J'ai pas d'argent pour partir. Mais c'est une Kawasaki. On fait quoi? Ils sont venus me chercher.
Vous avez inventé le sponsoring, quoi.
Ça existait, ça commençait à exister quand même déjà, mais plutôt pour des courses, vous voyez, mais pas pour ce genre de choses réellement. Et ils savaient que Motorevue attendait, que mon éditeur attendait, qu'un féminin attendait, enfin, ils savaient qu'on allait en parler si je faisais mon truc. Donc, ils ont récupéré la moto, ils m'ont emmené à Akashi, qui est au sud de Tokyo, là où il y a les usines. Et j'ai donné des interviews à la presse japonaise, et à cette époque-là, on était payé quand on était interviewé, et donc au Japon, hein, j'entends. Ce qui fait que j'ai regagné l'argent. Je ne prenais jamais d'argent par des marques parce que je voulais être libre de mon information. Et du coup, Air France m'a donné un billet d'avion pour Bombay, et je suis allée en Inde. Et je suis rentrée d'Inde en France en repassant par le Pakistan. Au voyage précédent, on avait été jusqu'à Rawalpindi. Et puis, cette fois-ci, j'étais seule. Et ça a été une naissance. Je suis vraiment née. Et je suis née en particulier en Afghanistan, parce que c'est un pays que j'ai adoré. J'ai adoré ce champ.
Alors, l'Afghanistan, c'est d'actualité. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce pays?
C'est un désastre. C'est un désastre. C'est la même histoire depuis 40 ans quasiment, qui est un pays magnifique, qui avait inventé une intelligence, c'est-à-dire que chaque petite vallée est un royaume en soi. Et au XVIIIe siècle, ils se sont réunis, ils se sont dit « on va nulle part ». Alors ils ont élu un roi. Et puis le roi, c'était comme un pilier autour duquel s'aggloméraient les grains de sable qui étaient disséminés. Ça prenait une unité. Une fois par an, ils se réunissaient pour la Loya Jirga, qui était la grande assemblée. Et tous ensemble, ils décidaient de ce qu'allait devenir le pays pendant l'année qui venait. Et le roi était la parole centrale. C'est très, très intelligent. Et il y avait plein de choses. Alors, l'Afghanistan est un pays qui était... extérieurement pauvre, mais qui avait des ressources. Mais surtout, il se trouvait à mi-chemin entre l'océan Indien et l'Asie centrale, qui appartenait au bloc soviétique à cette époque-là, où il y avait des gisements de gaz très très importants. Et Zahir Shah, qui était le roi, promettait, alors les Américains comme les Russes voulaient faire passer un pipeline pour amener ce gaz jusqu'à Karachi, et à partir de là, ce gaz pouvait être vendu partout dans le monde. Et Zahir Shah promettait, oui, bien sûr, les Américains, ce serait bien si on avait une route entre Kaboul et Herat, par exemple. Donc les Américains avaient construit la route du Sud. Et puis les Russes, pourquoi pas, vous pourriez faire passer votre pipeline. Oh, on a bien besoin d'une route pour monter à Mazar-e-Sharif. Donc les Russes allaient construire la route, etc. Et puis, les Russes sont rentrés à la mort de Tito. Un peu avant la mort de Tito, on savait que Tito était très très malade. Et On avait très très peur à la mort de Tito que les Serbes et les Croates se tapent sur la gueule parce que ils n'avaient pas la même attitude pendant la dernière guerre mondiale et que les règlements de compte ne s'étaient jamais faits parce que Tito avait écrasé tout ça sous son règne. Et à sa mort, on avait très très peur que la Yougoslavie explose. On a eu très très peur, si ça explosait, qu'il se passe la même chose qu'à Prague, c'est-à-dire que les chars russes débarquent au moment du printemps de Prague, quand Jan Palach s'est immolé par le feu. Enfin, les Russes ont promis de ne pas envoyer les chars à la mort de Tito, mais en échange, on leur a foutu la paix en Afghanistan. Et on a sacrifié un peuple pour avoir la paix en Occident, parce que les chars russes en Yougoslavie, ben, ils étaient à côté de l'Italie, ils étaient là, quoi. C'était une situation explosive.
Alors,
C'est une des explications. Ouais, hein. Il y en a d'autres certainement qui s'ajoutent à celle-là, mais celle-ci est évidente aussi.
Le regard sur les femmes dans ces pays-là, en Afghanistan.
J'ai appris à ne pas juger. C'est-à-dire que moi, j'appartiens à l'Occident. J'allais au hammam, dans tous ces pays, en Turquie en particulier. Et les femmes étaient très tristes pour moi parce que pas de mari et pas d'enfant. C'est elle qui me plaignait.
Ouais.
Mais j'ai surtout appris que nous avons, nous, en Occident, une part de solitude. Quand on dit « je », c'est moi toute seule. C'est moi toute seule. Un amour, j'ai des enfants, etc. Mais au milieu de tout ça, je suis moi. Tandis que quand elle dit « je », c'est nous.
Oui, elle se fonde dans un groupe, en fait.
Oui, elles ont
une
conscience. Oui, c'est ça. Quand elles disent « je », c'est ma famille et elles ont une place et elles sont heureuses. J'ai parmi les photos que j'ai rapportées, une photo que j'avais prise à Kaboul de deux femmes Gucci, la mère et la fille. Et la fille était resplendissante, elle était joyeuse. 25 ans, on l'avait enfin mariée, mais son mari avait 7 ans, il fallait qu'elle attende. Mais elle avait une place, elle était reconnue, elle avait un rôle, elle était dans une lignée, ça y était.
On a du mal à comprendre, hein, ça, nous, avec notre esprit.
Mais bien entendu, donc on se dit on ne pourrait pas vivre leur vie, mais elles ne pourraient pas vivre la nôtre.
Oui, c'est ça.
Donc j'ai appris à ne pas vouloir exporter mes critères et à respecter ceux des autres. C'est très difficile de faire comprendre ça en France à des femmes qui militent justement pour plus de présence.
Plus de liberté.
Plus de liberté.
Elles ne veulent pas finalement de liberté.
J'en sais rien. Beaucoup rêvaient de notre indépendance parce qu'elles étaient occidentalisées dans une partie de leur vie. Mais elles ne savaient pas que cette indépendance a pour armature cette part de solitude. Alors maintenant, ce qui est terrifiant et ce qui se passe, c'est que des femmes avaient accès, tout en ayant cette conscience particulière par rapport à la nôtre, avaient accès à des métiers d'hommes. Il y avait des femmes médecins, il y avait des femmes qui avaient un rôle extérieur. Et là, par contre, avec cette chape de plomb qui leur tombe dessus, elles vont le perdre. Et celles-là, elles vont payer un prix terrible, terrible, terrible.
Et alors, apprendre à ne pas juger comme ça, comment on fait ?
En ouvrant les yeux, en parlant avec les gens, en étant attentif. Je crois que ça se fait naturellement quand on est chez les autres.
Et vous n'avez jamais eu peur ?
Des serpents. On m'avait tellement dit quand j'étais arrivée en Inde, en particulier l'Afghanistan, c'est pas tendre.
Quand on voit aujourd'hui les images.
Oui, mais ça c'était 73.
Oui, mais même
avant
en 73, c'est quand même une autre culture, c'est une autre place des femmes dans la société. Vous arrivez avec votre moto toute seule,
les
cheveux lâchés, pas voilés, j'imagine.
J'avais perçu beaucoup de choses pendant mon premier voyage, mais ce n'était pas clair parce que je vous dis, je n'étais pas seule. Et donc, à l'ambassade de France à New Delhi, on me dit, l'Afghanistan, quand même, il faut faire attention, vous savez. Et c'est vrai qu'il y avait cette légende de ces hommes à turban, terribles. Et puis, dès qu'on a la peau sombre, ben, on pense qu'à violer les femmes. Et si on a la peau noire, on va les manger, c'est évident. Là, le Moyen-Âge n'est toujours pas mort, hein, vis-à-vis de la différence. Et donc, je m'étais dit, bon, tant qu'il y a beaucoup de monde, comme en Inde ou au Pakistan, qu'est-ce qui peut se passer, quoi, à part des émeutes, des choses comme ça. Mais je m'étais dit, après tout, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que l'Afghanistan, c'est vrai que c'est très, très vide. Donc, le premier jour, je vais de la frontière jusqu'à Kaboul, ça doit faire 150 km. Ensuite, Kaboul, Herat, 450, je l'avais fait l'année des... Il n'y a rien au milieu, de toute façon, à part Ghazni. Et puis, Kandahar, et puis Kandahar à Hirat, troisième jour, donc je me fais l'Afghanistan en 4 jours, quoi, il n'y a pas de problème. Et puis, je roule le jour, et puis la nuit, c'est vrai.
Mais la nuit, du coup, vous dormiez dans votre tente ?
Non, non, j'ai campé au Canada et en Alaska. Et quand je suis arrivée en Inde, y a des petits hôtels partout, ça coûte rien, en tous les cas par rapport à un budget occidental. Voilà, il n'y a pas de. C'est pas la civilisation du camping. Par contre, un voyageur m'avait donné un truc, c'est que tu es dans un pays où il n'y a pas de fenêtre à l'extérieur des maisons, ça veut dire que la nuit est dangereuse.
Ah.
Parce que ça veut dire qu'il y a des bandes armées éventuellement, il y a des bandes de bandits qui attaquent les camions, qui attaquent. Donc il ne faut pas être dehors la nuit.
D'accord. Mais oui, mais c'est ça, il pose un regard. Vous êtes sur votre moto, vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas d'enfant.
Mais il vaut mieux que je ne sois pas mariée, parce que tant que je ne suis pas mariée, je suis une vierge. Ça, c'est une évidence. Je suis une femme seule.
Il vous demande si vous êtes mariée ?
Alors oui, il frottait les deux index l'un contre l'autre. Ça veut dire, est-ce que tu es mariée ?
Ah.
Je lève la main, Yor, non, je ne suis pas mariée. Donc, ils me doivent obligatoirement aide, assistance et respect.
Ah, ok.
Et tout ça, je ne savais pas. Donc, j'arrive à la douane afghane. Et là, il y avait plein de camionneurs, des gros camionneurs et des gros camions, qui me tapent dans l'épaule, « Very brave woman ». Alors, comme ils sont gentils, n'est-ce pas ? Et puis un homme vient me chercher et il me prend par le bras, il m'emmène vers une voiture. Il y avait une femme qui avait le grand tchadri, ça n'a jamais été la burqa, c'est le tchadri.
C'est quoi la différence ?
La burqa, c'est un voile qui est en Inde. Et en Afghanistan, ça a toujours été le tchadri. Comment voulez-vous qu'un pays revive si on lui vole ses mots ? C'était ce voile avec la grille.
C'est ça,
oui. Et cette femme avait un bébé dans les bras. Et cet homme a pris le bébé, il l'a posé dans mes bras. Il me l'a laissé pendant 30 secondes et l'a rendu à sa femme. Est-ce que vous imaginez un Français qui va faire l'honneur de cet enfant qui est le sens de sa vie pendant 30 secondes pour un étranger qui passe par chez lui ?
Un étranger en plus atypique, parce que pour eux, vous êtes complètement un ovni.
Et donc c'était extraordinaire. Là, brusquement, toutes les peurs qu'on m'avait mises en tête ont commencé à vaciller. Et puis, je suis partie. Et je me suis retrouvée au milieu de nulle part parce que l'Afghanistan, entre les villes, c'est un semi-désert, c'est caillasseux, c'est un pays magnifique de sauvagerie. Et je suis le long de cette route et puis, brusquement, je vois un truc gris qui se lève dans les cailloux à ma droite. Je regarde ça, c'est un varan. Vous savez, ces énormes lézards. Et à ce moment-là, ma moto, au lieu de se lever, elle fait chpouf. Et elle s'arrête, j'avais crevé le pneu avant. Ouh. Alors, j'arrête la moto et je commence à démonter ma roue. Et passe un peu des premiers camions qui étaient à la douane. Alors, il ralentit, il dit problème, mister, parce que c'est pas madame, ils ne connaissent pas mister. Non, non, tout va bien, il s'en va. Deuxième camion, pareil, le troisième s'arrête. Pose même pas la question. Descendent trois armoires à glace qui viennent vers moi. Je me dis, c'est foutu, quoi. Ce qu'on m'avait dit, c'est vrai. Et le premier m'attrape par les épaules, il m'assied par terre, il se met entre le soleil et moi pour faire de l'ombre. Les deux autres me changent ma roue, enfin, me changent la chambre à air. Puis quand c'est fini, il me tape sur l'épaule, very brave woman, il s'en rend. Et je me dis, tu es la reine des connes. Comment est-ce que j'ai pu imaginer que des humains se conduisent mal ? Et j'ai eu honte. Et vraiment, là, je suis née. C'est vraiment une naissance où ça a balayé ce qu'on dit, ça a balayé. C'est pas tous des bisounours. Je veux dire, je suis pas dans l'angélisme, mais c'est des grands mots. Mais vraiment, j'ai rencontré l'humanité, quoi.
Et pourtant, vous choisissez de rentrer.
Mais bien sûr, parce que moi, j'ai appris que j'étais française quand j'étais plus en France, quand j'étais dans un autre univers. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vois des musulmans qui sont en France, je me dis, mais que ça doit être triste de ne pas entendre le chant du muezzin le matin et le soir, comme je l'entendais là-bas. Notre vie est rythmée sans qu'on s'en rende compte par des mots, par des bruits, par des odeurs, par des plaisanteries dans la rue. J'ai appris à me fondre autant que faire se peut dans les univers des autres, mais je sais que moi je suis façonnée par un univers particulier qui est celui de la France, qui est des gestes, des façons de se regarder, des façons de se nourrir, des plaisirs que nous offrons. C'est plein de petits signaux qui manquent aux Français qui ne vivent pas en France souvent. Donc ces petits signaux que j'ai appris à déceler dans les autres pays me font infiniment plaisir. Et j'adore vivre ça, mais je peux pas me déguiser en autre chose que ce que je suis. Je peux simplement faire preuve de respect et de bonne éducation vis-à-vis d'eux.
Et de curiosité peut-être.
Et évidemment, parce que le voyage, c'est tu es qui, toi ? Et eux, de leur côté aussi. Et c'est ça qui était magnifique. Par exemple, alors du coup, j'ai un peu traîné en Afghanistan.
Donc combien de temps pour faire ce tour du monde ?
5 mois.
5 mois.
Oui. Mais je suis retournée à Bamiyan, où il y avait les grands Bouddhas, qui est un endroit absolument magique au monde. Et sur la route de Bamiyan, il y a une chaikhana, c'est des espèces de demi-auberges où on sert de quoi manger à midi, vous buvez du thé, chai c'est le thé. Et il y avait 4 hommes qui étaient assis sur la terrasse de la chaikhana. Et quand je suis arrivée, on a évidemment discuté, mais on ne parle pas la même langue. Donc, c'est avec les mains où on fait des dessins par terre, etc. Et ils ont vu que j'avais des appareils photo, mais évidemment, par respect pour eux, et bien au moment où je partais, ils ont demandé que je prenne leurs photos. Mmh. Et ils se sont assis les uns à côté des autres, et ils ont posé la main sur le cœur, et ils m'ont offert leur image. Attendez, c'est magnifique. Est-ce qu'on fait ça pour un Afghan, nous ?
Oui.
Parce que quand je suis rentrée en France, ça a posé toutes les questions sur notre comportement. C'était être émerveillée par les différences. C'était cet émerveillement par les différences. Et en Afghanistan, c'était des différences immenses, immenses, immenses. On n'est pas dans le même ordre du monde, on n'est pas dans le... Mais ces gens-là tenaient debout.
Mais c'est quand même... Je suis d'accord, les différences, ne pas juger, je vous suis tout à fait... J'ai quand même du mal à voir une femme derrière un grillage sans la plaindre.
Parce que vous vous projetez. Parce que vous vous projetez en elle. Moi, j'ai appris à ne pas me projeter dans les autres. Je ne pourrais pas vivre comme elle, elle ne pourrait pas vivre comme moi. Voilà.
Mais donc, elles ne sont pas à sauver pour vous. Elles ne sont pas malheureuses, elles ne sont pas esclaves.
Dans nos termes, elles le sont peut-être. Dans les leurs, non. Non. Il n'y a pas qu'une seule vérité sur Terre. Ça, c'est un truc certain.
Ouais. Et alors, vous revenez de ce tour du monde, j'imagine, un peu chamboulé, changé.
Ah oui, 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 oui. J'étais plus la même. Là, je suis plus récupérable après ça.
Donc là, vous écrivez de nouveau un livre.
Et donc, j'écris un livre. Oui, c'était ma vie. C'est-à-dire que j'ai cette chance absolue depuis 1972 de faire ce que j'aime, c'est-à-dire d'écrire, de me balader, de raconter des histoires. On dit que c'est la liberté, mais la liberté, ça consiste à choisir ses contraintes ou avoir l'illusion qu'on les choisit, parce qu'après, il y a d'autres formes de conscience qui se mettent en place.
Mais cette liberté, on dit toujours que la liberté n'a pas de prix, mais elle coûte cher. Elle coûte cher.
Puisque... On ne va pas m'enterrer avec mon carnet de chèques.
Non, elle coûte cher. Je pensais plutôt à des choix de vie que vous avez faits, c'est-à-dire ne pas vous attacher, vivre seul, repartir quand vous avez envie de repartir, rentrer quand vous avez envie de rentrer.
Mais oui, c'est le privilège.
C'est un choix.
C'est un choix et surtout j'appartiens à un pays qui m'offre ce choix et qui me laisse une place quand même. J'aurais pu être dans d'autres pays et vivre des choses équivalentes peut-être, mais à quel prix ? Et avec une mise à l'index, ou être obligé de vivre dans une petite société très réduite qui vit de la même façon, alors que là, depuis que j'ai pris mon envol, depuis le moment où j'ai quitté mes parents pour faire ma carrière dans la publicité ensuite, etc., j'ai eu le droit de faire ce que je veux et d'être respectée dans ma société, d'y avoir une place. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde où on peut avoir cette illusion de liberté. C'est magnifique.
Pourquoi vous dites illusion ?
Parce que plus je vieillis et plus je construis une conscience collective et que à la fois... Je travaille pour moi et en même temps, j'appartiens à un écosystème qui est l'humanité, mettons, qui est en tous les cas la communauté française. Et par exemple, quand je suis heureuse, je suis persuadée que je rajoute du bonheur au monde. Donc j'ai un devoir de bonheur dans un pays où on mange 3 fois par jour et où on vous soigne vos cancers gratuitement. Donc pour moi, je ne me vois pas pleurnicher. J'aime beaucoup Jung, j'aime beaucoup la notion de l'inconscient collectif.
Alors, vous revenez de ce tour du monde, vous écrivez un livre et vous repartez.
Alors oui, je repars l'année suivante en reportage en Turquie et en 75, je descends en Australie parce qu'on m'a découvert... Enfin non, j'avais une boule dans le sein et dans la famille de maman, le cancer du sein était une obligation absolue. Absolue. Il fallait avoir un cancer. Ma grand-mère est morte d'un cancer du sein, maman passait son temps à se trouver des cancers partout. Et donc, c'était la malédiction.
Vous êtes fille unique ?
Non, non, j'ai une sœur. Et je me trouve une boule dans le sein. Donc, c'était évident que c'était un cancer. Mais comme il n'y avait pas de sécurité sociale pour les écrivains à cette époque-là, je ne pouvais pas me payer un cancer. Ce n'était pas possible. Et puis, je ne voulais pas que mes parents se ruinent, vendent la maison, pour, etc. Donc, quitte à mourir, autant que je me fasse mon dernier rêve, allez, je vais en Australie. Et donc, je monte le voyage en Australie et dire qu'au bout de 15 jours, le cancer du sein était totalement oublié. En fait, c'était un adénome de pas grand-chose. Et ça a été génial, ce pays. Alors ça, c'est le seul pays que j'ai vu où j'aurais eu ma place dans mes termes. Où il y a du plaisir de vivre comme en France. Ils adorent passer 4 heures à table à boire du vin. Ils font du très bon vin et à raconter des histoires. Une aventure créative d'architecture, de peinture, de musique, de cinéma extraordinaire, une littérature. Enfin, vraiment, c'est un pays absolument magique. Mais je n'aurais pas eu mes parents, peut-être que j'y serais restée.
Vous seriez restée.
Oui, c'est possible. Et en même temps, avec une nature d'une beauté folle, avec la place, c'est un continent. J'ai beaucoup aimé ce pays-là. Et donc, je reviens.
Vos parents, ils vivent ça comment, vos départs ?
Je pense qu'ils ont dû vivre l'enfer, certainement. Oui, je pense qu'ils ont dû vivre l'enfer. Ils ne me disaient pas trop grand-chose. J'étais à la fois l'échec de leur éducation et à la fois le fait que je publie, que truc, que machin. C'était
leur fierté, oui.
Peut-être, oui. Et toujours est-il donc que je reviens et je commence à écrire mon nombril autour de l'Australie sur ma moto. Et je m'ennuie comme un rat mort, parce que c'était tellement beau ce pays, que du coup j'ai fait mon premier roman, qui s'appelait L'histoire de Jacques Walcott, qui est l'histoire d'un chercheur d'or, qui, c'est une histoire vraie d'ailleurs, qui fait partie de ce qu'on appelle les good yarns, c'est-à-dire les bonnes histoires qu'on se raconte autour du feu de camp. Et cette histoire m'a fascinée, et j'ai fait mon premier roman, qui est sorti un 1er août, donc on a dû en vendre 25, mais... J'ai eu le prix Hermès, qui était un prix qui était donné à un premier roman par le Goncourt, le Renaudot, les lauréats de l'année précédente. Et quand en 81, en rentrant de mon voyage en Amérique du Sud, je me suis retrouvée coincée en France parce que on ne pouvait plus sortir d'argent de France sous le gouvernement Mitterrand, donc on ne pouvait plus voyager, eh bien ce prix Hermès m'a permis d'écrire des romans.
Et là, vous vous êtes mis à l'écriture ?
Et bien, au lieu d'écrire des livres voyages, j'ai commencé à écrire des romances.
Et donc, vous avez fini par gagner votre vie vraiment par l'écriture, pour le coup.
Ah ben, j'ai surtout fait beaucoup plus de journalisme, et ça a été formidable. Et ça m'a forcé à m'intéresser à beaucoup de sujets que je n'aurais pas été chercher par moi-même.
Donc, vous arrêtez de voyager à quelle époque ?
En 81, j'avais fait un tour d'Amérique du Sud, sur 250 Honda cette fois-ci, où je suis partie de Bogota, je suis descendue tout le long de la côte pacifique jusqu'à...
Vous n'avez toujours pas le permis de conduire ?
Non, non, je l'ai passé, j'avais 42 ans. Et donc, oui, je suis descendue par la côte pacifique, je suis allée jusqu'au Pérou, puis je suis passée dans les montagnes à Cusco, et de là, j'ai traversé pour la Bolivie, ensuite je suis descendue à Buenos Aires, et je suis remontée à travers le Brésil jusqu'à l'Amazone, et j'ai remonté l'Amazone en bateau. C'était mon rêve d'enfant et j'ai strictement rien vu. J'ai passé une semaine sur l'Amazone, sur un gros bateau, et j'ai passé une semaine à jouer à la belote avec le français qui était sur le bateau.
C'est vrai? Comment ça se fait?
Parce qu'on voit rien, c'est tellement large, on s'ennuie.
Ah oui, on est au milieu de l'eau, quoi.
Absolument.
Incroyable. Et alors, quand vous revenez en France, il y a pas, vous ennuyez pas ? Enfin, vous aimez l'écriture, mais je veux dire, vous avez qu'une envie, c'est de repartir. C'est quoi votre, qu'est-ce qui vous fait ?
À partir de 81, je pouvais plus repartir, mais le journalisme m'a permis de faire des petits voyages. Et donc, c'était de nouveau du bonheur de me promener. Et puis, en même temps, de trouver des endroits magnifiques.
Mais pourquoi on ne pouvait plus repartir en 81 ?
Parce que quand Mitterrand a pris le pouvoir, Il y a eu une panique chez les gens qui avaient des capitaux en se disant « les communistes vont tout nous prendre ». Et donc, il y a eu une fuite de capitaux vers l'étranger. Et pour bloquer la fuite des capitaux, eh bien, on a eu le droit de sortir 5000 francs par an, point barre, pas un sou de plus.
D'accord.
Donc les voyages étaient finis.
Et alors, jusqu'à quel âge vous avez continué à faire de la moto ?
Jusque le 12 août 2012. Le 11 août 2012, j'ai sorti la moto pour faire des courses. Et puis le 12 août 2012, je suis allée dans une ville à côté de la mienne pour chercher des trucs pour les chats. Et alors c'était lourd, donc j'ai pris la voiture. Et sur le retour vers chez moi, il y a un grand croisement où j'avais la priorité. Trois voitures arrêtées au stop à gauche. Et au moment où je suis arrivée, l'une des voitures a démarré, elle a accéléré et elle s'est jetée dans la mienne avec une violence absolument incroyable. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai eu des os cassés. Alors que je me suis cassé la gueule de toutes les façons de ma
vie. C'est dingue. Et au coin de la rue, finalement
Pratiquement. On a coupé la voiture en deux pour m'en sortir. Et je me suis retrouvée à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et là, c'était fabuleux. D'abord, on m'a sauvé la main, le bras. Je suis tombée sur des gens et j'ai revécu ce que j'avais vécu en voyage. C'est-à-dire que Bobigny, c'est le nord de Paris. Les gens, les soignants venaient du Maghreb, d'Afrique et d'ailleurs. Je me souviens que le troisième jour, j'étais venue avec mon ordinateur. Eh bien, les filles du service sont venues dans ma chambre et je leur ai montré sur l'ordinateur les photos du tour du monde, l'Afghanistan, sur l'Australie, etc. C'était magique. Et c'était de nouveau comme dans les voyages, c'est-à-dire on est émerveillé de communiquer avec autant de sincérité alors qu'on sait que nous sommes différents. Et c'est là où j'ai compris ce que c'était que mes voyages. Au fond, cet accident a été le péage pour mettre les choses en ordre. Et j'ai compris qu'on communiquait par les racines de l'humanité. On ne peut pas communiquer à travers la culture parce qu'elles sont parfois opposées, mais par les racines, c'est presque des communications d'enfance. Et j'ai compris aussi pourquoi j'aime tellement les chats, c'est qu'à travers les animaux, c'est les racines de la vie qui sont là.
Mais est-ce que ça vient de votre éducation, cette soif de liberté, d'indépendance, parce que malgré tout, tout ce que vous faites dans votre vie, c'est pour être indépendant, de faire vos choix.
C'est pour le bonheur.
Ouais.
J'ai pas un plan de vie en me disant je vais faire ça. C'est le bonheur absolu et je me rends compte qu'à 10 ans près, j'aurais pas pu vivre cette vie, parce que je suis pas du tout quelqu'un d'exceptionnel. Donc, il y a eu des femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Tandis que moi, qu'est-ce que je suis ? Je suis un jeune cadre dynamique qui s'ennuie et je vais faire autre chose. Mais je ne suis pas une athlète, je ne suis pas, je conduis comme un panier. Je veux dire, dès qu'une moto penchait, c'est vrai que j'avais peur et je ralentissais, mais c'est peut-être pour ça que je suis encore en vie. Non, je suis arrivée à un moment où, dans l'histoire de notre société, une femme seule à sa place peut gagner sa vie, peut avoir une liberté sexuelle fabuleuse qui avant 68 n'existait pas, qui n'a pas été l'otage de ses ovaires parce qu'on a eu enfin la contraception. Donc tout ça, c'est à 10 ans près, c'était pas joué, vous voyez. Au moment où ça s'est mis en place, eh ben j'ai pu me propulser dans ce nouveau monde et m'en régaler. Et ce nouveau monde qui s'ouvrait avec ces très anciens mondes que j'ai traversés s'est refermé tout d'un coup après la guerre du Golfe. Enfin, de toute façon, avec l'arrivée des Russes en Afghanistan, tout le Moyen-Orient a commencé à basculer. Et c'était avant que le bloc soviétique ne s'ouvre. Donc, ça a été un moment absolument merveilleux.
Oui, mais pour autant, il y a plein de femmes comme vous qui sont nées à la même époque que vous, qui ont eu la possibilité de faire toutes ces choses-là et qui ne les ont pas fait. Donc, vous aviez quand même un esprit préparé pour ça. Vous avez osé prendre la route. Alors, est-ce que c'est oser ou est-ce que c'est défier ?
Non, je sais pas. Défier, c'est donner le pouvoir à l'autre, c'est vouloir prouver. Et pouvoir prouver à l'autre, c'est lui donner tout pouvoir sur votre vie. Et à ce moment-là, vous n'allez pas loin. Une fois que vous avez prouvé, vous faites quoi de vous ? Ça ne m'intéresse pas. On est 7 milliards d'humains sur Terre. À cette époque-là, on était peut-être 5 milliards. S'il y en avait qui ne m'aimaient pas, je m'en foutais, il y avait de la ressource.
Donc vous avez osé ?
J'y suis allée parce que de toute façon, ma vie n'a de sens que par le plaisir que j'en ai.
Oui, mais avant le plaisir, il y a, vous le disiez, la peur de partir, la peur de tomber, la peur de ne pas revenir.
C'était non, ce n'est même pas la peur de ne pas revenir. C'est la peur de ne pas faire ce que j'ai envie de faire, de me casser la gueule. C'était uniquement la peur physique de l'accident. C'était tout. Mais je vous dis, une fois que je suis dans l'action, la peur n'existe plus. La prudence, oui. La prudence, absolument. Mm-hmm. Mais il y a cette espèce d'émerveillement, vous voyez.
Vous vous êtes fait des amis à travers le monde ?
C'est difficile d'avoir des amitiés avec des gens qui résonnent très, très différemment. J'ai gardé des amitiés en Australie, oui.
Vos parents, ils faisaient quoi ?
Papa était commercial. Il était directeur commercial d'une boîte à la fin de sa vie qui faisait des écharpes, des étoles en soie qui étaient tissées à Saint-Étienne. Et maman était, elle, alsacienne d'ailleurs, d'origine, et elle était dentiste. Mais elle a quitté la dentisterie, je crois, après ma naissance.
Donc elle était médecin.
Elle avait fait première année de médecine, et puis ensuite dentisterie.
Donc c'était déjà une femme libre pour l'époque.
Non, pas du tout.
Non ?
Non, pas du tout. Maman était...
Bah déjà travailler, c'était rare.
Non, les femmes avaient appris qu'il fallait travailler à cause des deux guerres. Alors, maman est née en 1912, elle a fait ses études, mais déjà en 1914-18, elle a appris qu'il fallait que les femmes puissent prendre la relève quand les hommes ne sont pas là. Et le fait que les femmes travaillent, c'est grâce aux deux guerres mondiales.
Mais vous imaginez que votre maman, elle n'avait pas le droit de vote.
C'est arrivé en 1947, oui, absolument. Mais elle ne se posait pas ce genre de questions, la famille n'était pas politisée. C'était une famille de bourgeois protestants qui était à la fois un mélange de 19e siècle et de gaieté, parce que c'était joyeux. Mais en même temps, c'est vrai que je suis l'échec de la bonne éducation protestante. Hein.
Ou la réussite, on ne sait pas.
Ah non, attendez, pas de mari et quand même certaines légèretés. J'ai pas aimé être une enfant, donc pour moi, c'est pas du bonheur.
C'est rare ça, pourquoi vous n'avez pas aimé être une enfant ?
Mais ça ne me plaisait pas. Moi, je me disais que la vie, c'était ce que j'allais en faire. Donc, pas de mari, ben non, je sais être amoureuse, je savais être amoureuse, mais aimer, c'est quelque chose de différent. J'aimais bien quand ça flambe, mais quand il fallait que ça flambe moins, je m'ennuyais.
Le quotidien, enfin la routine, ça vous ennuie ?
Non, ça ne me rassure pas la routine, ça m'éteint. Et puis je suis faite pour être seule, avec des amis. Sans mes amis, je ne pourrais pas vivre. Ça, c'est indispensable. Non, je ne suis pas faite pour une famille.
Vous aimez que ça change ?
Maman, finalement, avait fait des études de médecine, de dentisterie. Elle a été dentiste et puis elle s'est retrouvée avec deux enfants à faire la cuisine tous les jours, à tenir la maison. Non, je pense que ça a dû sans doute la frustrer. C'est possible qu'elle ait un peu le sentiment de passer à côté de la vie aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce sentiment-là. Dans cette génération, vous voyez, qui était entre deux mondes.
À mi-chemin, oui.
C'est-à-dire que...
aujourd'hui, honnêtement.
Peut-être. Mais elles étaient formatées par le 19e siècle, et puis elles voyaient brusquement un monde qui s'ouvrait autour d'elles, mais elles n'avaient aucun des outils pour entrer dans ce monde. Parce que moi, je suis la première génération qui a eu les outils. Mmh. Et non seulement pour y rentrer, mais m'en régaler.
Qu'est-ce que vous portez comme regard aujourd'hui sur, justement... Tout ce qu'on dit sur les femmes, sur l'égalité homme-femme, sur les combats qui sont menés, vous en pensez quoi ?
Rien. C'est vraiment pas mon sujet. Quand je suis rentrée de mon tour du monde, les féministes ont essayé de me raccrocher. Donc j'avais été en Afghanistan, je suis allée chez les féministes, hein, c'était aussi un voyage. Et je me suis retrouvée invitée à une réunion qui avait lieu rue des Saints-Pères à Paris. Donc je suis rentrée dans une grande salle, il y avait plein de bonnes femmes qui avaient les cheveux courts et un bonhomme qui n'avait jamais vu une femme de sa vie. Tout ça dans un silence concentré, on attendait quelqu'un. Et puis on a attendu longtemps, et puis finalement la porte s'est ouverte et ça a été une entrée très théâtrale. Une bonne femme, pas très haute, est arrivée en disant « Mesdames, Paris est aux mains des phallocrates ». Alors le silence qui était d'attente est devenu un silence de terreur. Et elle continue en disant « J'ai remonté la rue des Saints-Pères, j'ai levé les yeux et qu'ai-je vu devant moi la tour Montparnasse ? Mesdames, ceci est un symbole phallique qui écrase la ville. » Et je me suis dit que peut-être, j'irais peut-être plutôt retourner voir les Afghans que voir les... les féministes. Ça ne fonctionnait pas.
Je ne sais pas ce que vous pensez de l'écriture inclusive, mais j'ai une vague idée.
On peut parler de quelque chose d'intéressant. Non, mais on marche sur la tête. Attendez, si la féminité, ça tient à mettre un E, ça veut dire que franchement, c'est rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais est-ce que parce que je ne mets pas deux, je suis écrasée par les hommes? Mais restons, regardons par où on peut s'additionner plutôt que de s'affronter. C'est absurde. Moi, j'ai appris, quand j'ai voyagé, à additionner et non pas à affronter. En voyageant, j'ai essayé de comprendre ce que veut dire le mot « ensemble ». Par contre, oui, je veux bien descendre dans la rue pour qu'on défende le même salaire pour un travail équivalent. Ça, c'est dégueulasse. On est d'accord. Un type qui tape sa femme, je lui fais manger ce que je ne vous oserais pas dire devant un micro, mais sans problème. De même que j'irai péter la gueule à une femme qui tape son mari. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça.
Quel conseil vous donneriez à quelqu'un maintenant qui aimerait s'engager pour aller faire un tour du monde comme ça, sur sa moto?
Le monde a tellement changé que mes conseils ne seraient pas d'actualité. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu à un moment précis, dans des vérités précises à ces moments-là, mais pas plus. Par contre, qu'est-ce que j'ai pu rigoler? Qu'est-ce que j'ai pu rigoler? Vous vous rendez compte, j'arrivais sur ma moto en Amérique du Sud. Et alors, comme partout, évidemment, c'est la télé en couleur. Les gens viennent voir une famille toute seule.
Oui.
C'était Ay Mamita, on était basse, petite mère, c'est comme ça qu'on s'appelle dans les Andes. Tu viens d'où? Ça vient d'une française, ça, je suis une française. Oh, une française, si, ma française, elle est pareille, c'est une française de Paris. Ay Mamita, t'as danse française, ça sent muñecas de amor. Toutes les françaises sont des poupées d'amour. Et j'étais sur la moto, j'étais couverte de cambouis, de saleté, de pourriture. De la route, j'étais une poupée d'amour.
Tu parlais plusieurs langues?
J'ai appris, alors je parle anglais, j'ai appris à parler australien parce que c'est pas du tout la même chose. Quand je suis dans un pays où je suis heureuse, j'apprends les 90 mots qui aident à vivre.
C'est passionnant, on pourrait vous écouter comme ça toute la journée. Dites-moi, Anne-France, ce podcast s'appelle Le Podium. Le podium, parce qu'aujourd'hui vous êtes en haut du podium, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ou plusieurs personnes que vous aimeriez faire monter sur votre podium? Quelqu'un qui vous a particulièrement marqué ou que vous avez envie d'avoir avec vous?
Il y en a tellement. Il y en a tellement. Je pense à un aborigène à Umbulguri, au nord de l'Australie, que j'avais rencontré en 1975 à mon premier voyage. J'avais pris des photos. Je suis revenue en 78 faire un film en Australie, mais je ne suis pas allée en Bulgarie. Et j'y suis retournée en 94 en reportage. Et je suis remontée en Bulgarie, donc de 75 à 94, vous voyez, et j'ai apporté les photos. Et j'ai retrouvé cet homme qui était le chef de la petite communauté. Et on s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours. Il y a une fraternité parce que le temps avait passé qu'on se retrouvait. Et quand je suis partie, il ne m'a pas dit « on pensera à vous ». Il m'a dit « pensez à nous », comme si ça permettait de, ça leur permettait d'exister encore. Il y avait un Navajo que j'ai rencontré en reportage et qui s'appelait Tom Phillips. Et Tom Phillips, je venais l'interviewer, il m'a dit non, non, on ne parle pas. On ne parle pas parce que les Blancs se sont trop moqués, les White Eyes, les yeux blancs, se sont trop moqués de nous. Et j'avais apporté ce que j'avais écrit sur les aborigènes dans un magazine et je lui ai lu ce que j'avais écrit en traduction instantanée pour qu'il comprenne que j'ai du réflexe. Et le lendemain, on est parti avec le photographe et lui dans Monument Valley, c'était le guide, et au milieu d'une piste qui bougeait dans tous les sens, il a dit « ceci est le quatrième monde ». Et pendant les 3 jours qui ont suivi, il m'a ouvert le monde des Navajos. Et cet homme est mort. Je ne le savais pas. J'ai des amis l'année dernière qui voulaient aller à Monument Valley. Je leur ai dit « il faut contacter Tom Phillips ». Donc j'ai cherché. J'ai vu Phillips Spiritual Tours, c'est-à-dire des tours spirituels. Vous imaginez? Alors qu'il ne voulait pas parler. Et en fait, c'est son fils qui a repris. Et à cause de ce reportage, il y a une porte qui s'est ouverte. Si Tom Phillips, même mort, je voudrais qu'il soit sur le podium, et son fils pour continuer la chose.
C'est beau. Merci beaucoup, Anne-France. Merci pour ce partage et puis pour ce superbe moment qu'on vient de passer ensemble.
Écoutez, non, vous m'avez sublimement bien reçu. Vous savez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui sait écouter et qui sait rentrer dans votre mouvement, c'est comme dans un voyage. C'est qui tu es, toi, sauf que là, on parle le même langage et ça dure une heure.
On a fait un très, très beau voyage, en tout cas.
Ah ouais, c'est sympa. On va boire un coup.
Oui, on va boire un coup. Thank you.
parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.